Et au menu de notre club cet après-midi, une combattante des océans, une linguiste pour des histoires d'arbres, une physicienne avec le Big Bang pour les nuls, et je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, le coup d'envoi des états généraux de la bioéthique, ça commence.
Oui, ils vont durer 5 mois partout en France et c'est l'occasion de vous exprimer sur les sujets scientifiques qui vous préoccupent ou vous tiennent à cœur. On en discute avec un des organisateurs pour le Comité Consultatif National d'Éthique, Pierre-Henri Duet.
Et voilà pour le sommaire de ce club qui a été préparé cette semaine par Thomas Kalevitch.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et nos invités que je salue, la linguiste Henriette Walter, la physicienne Blandine Pluchet et Claire Nouvian de l'association Bloom. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et bienvenue Claire Nouvian, est-ce que vous avez dormi un petit peu cette semaine après la victoire obtenue au Parlement européen contre la pêche électrique? Ça a été dur encore là.
Ouais, ça a été dur, je dormis une nuit et puis là ça y est, c'était bon parce qu'il faut repartir au combat tout de suite.
Il y en a d'autres derrière qui arrivent?
Oui, il y a le trilogue, vous savez, c'est l'Europe, donc une fois qu'on a une position du Parlement, il faut aller négocier avec le Conseil et la Commission.
Donc on va discuter avec vous des coulisses justement de ce combat. Henriette Walter, vous publiez avec Pierre Avenas la majestueuse histoire du nom des arbres chez Robert Laffont, du modeste noisetier au séquoia géant. C'est un champ immense auquel vous vous êtes attaqué parce que les biologistes dénombrent des dizaines de milliers d'espèces d'arbres et d'arbustes. Exactement. Vous avez fait votre liste de 200,
c'est ça? Nous avons eu du mal, mais évidemment, nous avons utilisé les mêmes arguments que nous avions, ou les mêmes critères que nous avions pour les mammifères, les oiseaux et les poissons. C'est-à-dire que nous n'avons retenu que les noms qui existent dans trois ouvrages généraux, enfin dictionnaires usuels du français. Donc le petit Robert, le petit Larousse et le Hachette, ça nous fait 200, c'est pas beaucoup.
Bah c'est donc, déjà pas si mal, ça voilà. Fait déjà un bon livre
oui,
quand même. Hein.
Un peu trop gros peut-être,
non.
Mais heureusement que nous avons des index qui permettent de s'y retrouver.
On va s'y balader avec vous dans quelques instants. Blandine Pluchet, vous signez de votre côté le Big Bang pour les nuls chez First Edition. Est-ce que le Big Bang, ça commence vraiment avec un gros boom?
Eh bien non, justement. C'est plutôt une idée reçue et c'est une idée justement que j'essaie de combattre dans mon livre. Le Big Bang, c'est plutôt une théorie qui raconte l'évolution de l'univers. Et ce grand récit, je le relate dans mon livre. Et puis, je raconte aussi comment on a découvert cette théorie. Et
qu'est-ce qu'elle nous dit,
et tous ces grands acteurs.
Et ces questions qui se posent encore aujourd'hui avec cette préface d'Hubert Reeves. Allez, on se retrouve dans un instant pour évoquer l'ensemble de ces sujets avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Et le coup d'envoi qui est donné depuis hier soir pour les états généraux de la bioéthique, fin de vie, modification du génome, PMA, intelligence artificielle, et ça c'est le coup d'envoi justement, le match de boxe, quel monde voulons-nous pour demain? Voici le slogan justement choisi par le Comité National Consultatif d'Éthique pour cette vaste consultation citoyenne qui va durer jusqu'à l'été, avec les associations, les experts, les sociétés savantes, les citoyens invités partout en France à s'exprimer, à dialoguer sur ces sujets dans le but de nourrir justement la prochaine loi de bioéthique attendue au Parlement à l'automne. Axel, pour en parler, nous recevons l'un des organisateurs de ce rendez-vous.
Oui, Mathieu, nous sommes avec Pierre-Henri Duet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite à l'INRA, membre du Comité Consultatif National d'Éthique, président de la section technique. Quelles ont été au comité vos priorités dans l'organisation de ces premiers états généraux? Comment on fait naître le dialogue sur des sujets aussi divers à l'échelle d'un pays?
Comment on le prépare d'abord?
Oui, mais c'est la question que vous êtes posée.
La mission du comité d'éthique est depuis 35 ans, presque 35 ans, de réfléchir et de questionner les progrès de la science, des sciences de la vie, de la santé, etc., et leurs applications. Et cette réflexion multidisciplinaire qui bénéficie de ces regards croisés de différents métiers, différents regards, différents parcours professionnels, est au bénéfice finalement de la société. La nouvelle mission qui a été confiée par la loi en 2011, c'est d'organiser un débat public. En quelque sorte, le CCNE, le Comité Consultatif est un laboratoire de réflexion autour des progrès de la science. Maintenant, mettons en place cette réflexion à l'échelle de la nation. Alors, l'enjeu est énorme, puisque c'est nouveau pour nous, c'est une mission importante. C'est presque un Big Bang, en quelque sorte.
Ça commence depuis hier,
avec la réflexion autour des moyens d'information. Comment informer le public, justement, pour s'approprier ces questions, pour pouvoir après débattre, écouter aussi, et je crois que c'est un des enjeux importants, c'est de permettre que non pas des positions antagonistes puissent prendre le relais et occulter le débat public, mais de mettre toutes les conditions, la facilitation finalement de, et c'est bien le qualificatif du rôle du CCNE, de faciliter le débat public en toute neutralité, bien entendu.
Donc c'est vraiment cette idée d'apporter aussi la culture scientifique au grand public pour pouvoir se nourrir et avoir un avis éclairé justement sur ces questions qui nous concernent tous.
La première étape est bien l'information. Et nous mettons en place dans les prochains jours, probablement à la fin du mois de janvier, un site dédié à ces états généraux de la bioéthique qui va héberger un certain nombre de contributions autour des thématiques que vous avez rappelées tout à l'heure.
En plus des débats dans les différentes villes.
Des contributions, des agendas, effectivement.
Alors, quel est le rôle du comité au sein de tout ce processus? Qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant 5 mois?
Nous organisons, donc mettons en place un certain nombre de manifestations, en particulier avec les espaces de réflexion éthique au niveau des régions. Je crois que c'est important aussi de pouvoir s'appuyer au niveau des régions à des mini-comités d'éthique, en quelque sorte, qui vont aussi organiser leur débat. Nous écoutons également au niveau du comité d'éthique, nous auditionnons l'ensemble des sociétés savantes, les associations qui sont concernées, un certain nombre de courants de pensée, évidemment. Et donc, cette écoute est importante et l'ensemble des contributions des différentes personnes, des différentes associations qui vont être auditionnées seront justement sur le site web que j'évoquais à l'instant.
Alors, quels sont les sujets pour lesquels vous vous attendez à recevoir, à entendre le plus de personnes?
Alors, vous avez rappelé l'ensemble des thématiques qui sont assez larges, parce que je crois que quand on regarde un peu les progrès de la science depuis 2011, puisque la dernière révision de la loi de bioéthique, c'était il y a 7 ans, 8 ans, il y a eu un progrès, et là aussi on parle d'explosion, des connaissances qui ont fait que aujourd'hui, des applications de la recherche vont interroger, questionner un certain nombre de principes éthiques qui sont ceux qu'on partage actuellement, la dignité de la personne humaine, l'autonomie, la gratuité des dons, etc. Ce sont des questions vraiment qui sont maintenant posées. Alors, quelle thématique va émerger de ces débats?
C'est ça.
Je crains et nous souhaitons que tout ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation puisse laisser la place éventuelle. Ça sera évoqué en particulier dans certains centres.
Qu'est-ce que vous craignez? Qu'on ne parle que de ça finalement? Que les débats se cristallisent autour de ce point-là en particulier?
Ce qui est effectivement important, c'est que d'autres aspects comme par exemple la génomique, tout ce qui concerne la génétique, puissent prendre aussi une place importante dans la réflexion du public.
Vous-même, en tant qu'agronome, ancien chercheur, pour vous, quels sont les sujets qui méritent l'attention avant la PMA pour vous dans notre société aujourd'hui?
Alors, justement, tout ce qui concerne la génétique, la génomique est important. En tant qu'agronome, je crois qu'il y a un aspect qui a été, une thématique qui a été incluse dans le périmètre des états généraux de la bioéthique, c'était ce qui concerne la relation santé-environnement. On sait par exemple qu'au niveau mondial, l'OMS nous dit 8 millions de morts par an dues justement à la pollution de l'air. On a une augmentation des maladies émergentes humaines qui sont principalement dues depuis 15 ans à justement les modifications de l'environnement, la perturbation de cet environnement. Ce qui est important, c'est finalement de mettre dans cette réflexion autour de la santé humaine des paramètres qui sont peut-être un petit peu plus lointains dans la réflexion aujourd'hui, mais qui concernent l'ensemble de la définition de la santé, comme le rappelle l'OMS. C'est pas seulement l'absence de maladie, c'est aussi un bien-être qui peut être social, économique, physique, et nous disons aussi au niveau du CCNE, environnemental.
Alors, si je suis auditeur de France Inter, je suis pas engagé dans une association, je suis pas scientifique, c'est quoi mes possibilités, peut-être pour m'exprimer pendant ces 5 mois? Où sont mes portes d'entrée? Où est-ce que j'écris?
Alors, vous pouvez écrire effectivement sur le site web qui héberge l'ensemble des contributions, des réactions justement aux informations qui vont être consignées, aux questions qui vont nourrir ce débat. Vous pouvez participer dans les réunions au niveau des régions. Il y a un certain nombre de réunions qui se sont déjà mises en place et l'agenda est en train d'être affiné. Nous avons la semaine prochaine justement une réunion avec l'ensemble des espaces de réflexion éthique pour consolider ce programme jusqu'à la fin du mois de juin. Et donc, à travers ces rencontres au niveau des régions, vous pouvez effectivement exprimer votre opinion sur un certain nombre des thématiques qui sont inscrites au débat.
Et il y a déjà des dates, hein, de villes, évidemment, parce que les débats ont déjà commencé. Rendez-vous à Brest, par exemple, le 31 janvier, tout comme à Champagnole dans le Jura, ce sera le même jour, le lendemain 1er février à Montpellier. Et donc, lorsque le site sera ouvert, c'est-à-dire à la fin du mois, on pourra découvrir tous les lieux qui peuvent accueillir le public, hein, évidemment.
Et sur les sites des espaces de réflexion éthique régionaux, bien entendu aussi.
Voilà, états-généraux-de-la-bioéthique.fr, c'est le site qui sera en fonctionnement d'ici quelques jours. Merci beaucoup Pierre-Henri Duet et Axel, on se retrouve lundi.
À lundi.
Et en bref, dans le reste de l'actualité, l'impact environnemental des fours à micro-ondes. En étudiant leur cycle de vie depuis leur fabrication jusqu'au recyclage, des chercheurs de l'université de Manchester se sont aperçus que l'ensemble des fours européens étudiés produisaient autant de dioxyde de carbone que 7 millions de voitures chaque année. Selon eux, c'est leur consommation en électricité qui impacte le plus l'environnement. Au sein de l'Union européenne, ces fours consomment chaque année 9,4 TWh, soit l'équivalent de ce que génèrent trois grosses centrales électriques en un an. Mais leur traitement en fin de vie pose également des problèmes, d'autant plus que leur faible longévité incite les utilisateurs à les jeter rapidement pour en racheter de nouveau. Des chiens entraînés pour flairer des antiquités après les explosifs ou les stupéfiants, les agents des douanes américaines pourraient bien utiliser des chiens pour lutter contre le trafic d'antiquités pillées au Moyen-Orient. Il s'agit d'un enjeu de taille puisque les experts estiment que ce trafic dégage plusieurs milliards de dollars de profit à l'échelle mondiale. Initié par l'université de Pennsylvanie, le programme débutera très prochainement pour éviter de faire courir un quelconque danger aux œuvres d'art, les quatre premiers chiens, a priori des labradors ou des bergers allemands, ne renifleront pas directement les œuvres, mais des boulettes de coton imprégnées de leur odeur. Et puis jouer de la musique comme à l'époque de l'Empire des Huns, c'est possible. Cinq instruments vieux de 1700 ans ont été retrouvés sur deux sites archéologiques de l'Altaï, une chaîne de montagnes à cheval entre la Russie, la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan. L'un d'eux est tellement en bon état qu'il est possible d'en jouer, indiquent les archéologues russes à l'origine de la découverte, s'apparentant à une guimbarde. Il mesure environ 11 cm de long. Il est formé de trois branches taillées dans des éclats de côtes de vaches ou de chevaux. Très certainement fabriqué par une tribu Hun, il est difficile de savoir à quelle époque et quel type de musique il se destinait. Ce peuple de guerriers nomades qui vivait au 4e siècle de notre ère n'a laissé aucune trace écrite. Les informations les concernant proviennent d'autres cultures. Et c'est le club dans un instant.
D'Orient, sous les tuves, les fumées d'encens, brûle tes poumons dans les torpeurs enivrantes, hume les fleurs, leur senteur navrante, laisse loin la rumeur des villes. Si ta vie est tracée, dévie, prends des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux, enfile des semelles de vent, deviens voleur de feu, défie Dieu comme un fou, refais surface, loin des fous, la fine force et faiblesse, fais de ta vie un poème. Sois ouragan entre rebelles, Ougan, empereur de brigands, maquin d'Albois, Caïman, écris des récits ou te cogner à tes récifs, une feuille blanche et encore vierge pour accueillir tes hérésies. Lis entre les vies, écris la vie entre les lignes, fuis l'ennui des villes, lis vite si ton cœur lui aussi s'abîme. Un jour, je me bats à
hasta la vista. Je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là. Attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà. Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps. Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras. Traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats. M'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça. Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat. Affûter ma lame, me replonger en moi. Un fantôme se pavane dans son anonymat. Rêve d'un pays de cocagne où l'on m'attendrait là-bas. Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux. Des regards transparents qui me noient à petit feu. La zone est de mépris, la vague est d'indifférence. La foule est un zombie et je vogue à contresens. Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme. Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté. En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes. Se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut. Reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu. Briser les chaînes, fissurer la dalle. Inventer la lune, que tout cela voit. Devenir vent de nuit, pousser la voile. Et s'enfuir vers des rives là-bas.
Tôt le matin, chanteur et écrivain Gaël Faye à l'instant.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Au menu donc cet après-midi, la bataille contre la pêche électrique, une histoire du nom des arbres et le Big Bang pour les nuls avec Claire Nouvian de l'association Bloom, la linguiste Henriette Walter et la physicienne Blandine Pluchet et vos messages, bien sûr, vous nous rejoignez, nous sommes en direct, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Claire Nouvian, on va commencer avec vous. Vous êtes la fondatrice de l'association Bloom qui milite pour la protection des écosystèmes marins et votre actualité, l'actualité de la semaine, c'était cette victoire annoncée mardi contre la pêche électrique.
Retour en France avec ce vote très important intervenu aujourd'hui au Parlement de Strasbourg. Les eurodéputés ont voté à une large majorité pour l'interdiction de la pêche électrique au sein de l'Union européenne.
Voilà Claire Nouvian, vous êtes rentrée de Strasbourg après l'annonce de cette victoire contre cette pratique de la pêche électrique. 402 voix contre 232 et j'avais envie que vous nous racontiez les coulisses d'une telle bataille parce que vous avez croisé le fer jusqu'au dernier moment. Ça a été assez long et l'issue du vote est demeurée très incertaine jusqu'à la fin quasiment. C'est ce que vous nous disiez quand on vous a eu au téléphone lundi dernier. C'est finalement votre deuxième grosse bataille. Il y en a eu d'autres, on pourra les évoquer, après celle que vous avez menée contre le chalutage en eau profonde. Est-ce que vous avez mené le combat de la même façon d'ailleurs pour les deux et comment est-ce qu'on prépare le plan de bataille quand on veut justement militer pour une cause environnementale comme celle-là?
Eh bien, j'avoue que l'expérience de notre campagne contre le chalutage en eau profonde m'a bien servi parce que je vous rappelle que le Parlement, en décembre 2013, avait quand même échoué à faire interdire le chalutage profond à 9 voix. Enfin, je ne sais pas si j'étais déconfite. Mmh. Et ça, je me souviens très bien. Cette fois-ci, j'ai dit à mon équipe qui est formidable, qui doit être remerciée, vénérée, parce que c'est une équipe de jeunes gens intelligents, dévoués, mais radicalement orientés sur leur mission, changer le monde, hein, rien de moins, pas faire de compromis odieux, etc. Ces gens-là, en fait, j'aurais dit, on va aller voir tout le monde, c'est plus possible. La dernière fois, on a perdu à 9 voix. Vous imaginez, les enfants, si on se retrouve et qu'on a perdu à 4, 5, 10 voix, on va devenir fou. Alors qu'en fait, on n'a pas dormi, hein, on est resté groupé comme si on avait 15 ans et qu'on faisait nos premières fêtes. On ne s'est pas lâché pendant 3 semaines sans dormir. Et en fait, voilà, en travaillant comme des brutes avec de la stratégie.
Qu'est-ce qui se passe justement pendant ces journées et ces nuits de négociation? Parce que vous négociez avec qui au fond?
Alors en fait, on essaie de convaincre les députés de nous suivre. Selon, évidemment, là, ça a été le terrain médiatique, on l'avait bien préparé, on va dire, en France. C'est plus facile en France pour nous qu'ailleurs, quand même. Ouais. Mais on a quand même travaillé sur d'autres États membres. Et donc, des députés se sont mis, évidemment, tout de suite sur ce combat. Par exemple, Yannick Jadot, dès le départ, des Verts, Younous Omarjee, de la France Insoumise. Ensuite, la délégation socialiste du Parlement a montré patte blanche, en fait. Mm-hmm. Et à partir de là, c'est une logique politique qui commence à se déployer à l'intérieur de chaque groupe. Mais il y a 8 groupes au Parlement et il y a 28 nationalités. Ouais. Et donc, avoir les Français, c'est génial, mais ça ne fait pas du tout le compte. Donc ensuite, il faut aller voir toutes les autres nationalités.
Donc il faut négocier vraiment avec chacun des députés.
Ouais. En fait, il faut les convaincre, parce que il faut savoir que les lobbies industriels néerlandais, soutenus par leur État de façon regrettable, très regrettable, c'est un sujet à part entière, ça, ils sont passés bien avant nous, hein, depuis des années, ils ont planté une mauvaise graine en prenant des informations. Au début, ils ne faisaient que de la sélection des faits scientifiques qui les avantageaient. Mais ensuite, ils ont carrément menti quand ils ont vu qu'on commençait à gagner du terrain. Ils ont menti délibérément aux députés, et en fait, la Commission européenne aussi a menti. En accordant en fait des dérogations à une pêche qui était interdite en Europe.
C'est ça, depuis 98,
c'est ça ? Depuis 98, c'était interdit. En 2006, la Commission européenne n'a pas tenu compte d'un avis scientifique, mais a fait croire qu'elle tenait compte de l'avis scientifique. Donc vous voyez, les parlementaires, que la Commission européenne leur mente, hein, c'est quand même pas la première fois, parce qu'on commence à avoir des dossiers qui s'accumulent, hein, glyphosate, etc. Je pense que ça a créé une exaspération. Et voilà, nous, en fait, on a un dossier qui, d'un point de vue scientifique, est en béton armé. On a une chercheuse qui doit être citée, Laetitia Bisio, qui a fait un travail remarquable. Et donc, on est arrivé tard. Ce qui était dur, c'était le temps qu'on avait, en fait, qu'on avait d'ailleurs pas.
Combien de temps vous aviez jusqu'avant le vote, exactement?
En fait, entre le vote en commission, parce qu'il y a un vote en commission, avant qu'un vote aille en plénière. Et l'ensemble du Parlement ne veut pas entendre parler d'un vote s'il n'est pas à l'agenda, hein, parce qu'ils ont d'autres sujets, ils ont plein de choses à faire. Et donc, on avait en tout 3 semaines, ouais, avec Noël au milieu. Enfin, vous voyez, donc on arrive le 8 janvier, les activités parlementaires reprennent et les députés ont tout oublié. Donc, il faut recommencer à zéro. On a eu 1 semaine.
Donc, 402 voix contre 232. Vous êtes content du résultat ou pas?
Non, mais là, j'ai failli m'évanouir de joie.
Parce que la veille, c'était pas gagné du tout. Hein.
Alors, c'est jamais gagné parce qu'en fait, il y a eu un contre-lobbying très toxique et qui ne se nomme pas, mais dont je sais qu'il a eu lieu, de gens qui ont eu des actions qu'ils n'auraient pas dû avoir et qui ont essayé de passer là où nous, on avait réussi à diviser la droite européenne, qui vote traditionnellement contre l'environnement, et on avait réussi à quand même diviser la droite européenne, et certains sont allés récupérer en fait ceux qu'on avait réussi à retourner en la faveur de la science et des citoyens et des pêcheurs artisans. Ils sont passés par derrière pour faire des dégâts. Donc moi, je ne savais pas quelle était l'ampleur du contre-lobbying. Il a quand même eu lieu.
Ce que vous décrivez, c'est ce qui se joue en permanence, finalement, sur des dossiers environnementaux en particulier, hein, mais pas seulement, au Parlement européen. C'est-à-dire qu'il y a des pressions, des lobbies qui sont là pour essayer de convaincre les députés, et ça cogne de chaque côté quand même.
Alors le problème, c'est que c'est toujours pareil. Nous, on nous appelle un lobby, bien sûr, que ce qu'on fait, c'est du lobbying, sauf que nous, on ne ment pas. Ça fait quand même une grosse différence. On ne ment jamais. D'ailleurs, si une petite association a quand même un impact au niveau européen ou mondial, parce qu'on s'occupe parfois de gouvernance internationale, c'est évidemment parce qu'on ne peut pas avoir le moindre argument qui soit faux, sinon on est fini, nous, on ne peut pas. Et donc, ce qui est quand même dingue, c'est de penser que c'est lobby contre lobby. Non, c'est des millions d'euros ou des centaines de milliers d'euros contre une campagne qui a été financée par les citoyens. Je peux vous dire, ça nous a coûté 37 000 euros. Donc, on a réussi l'impossible en déplaçant des montagnes avec quasiment rien.
On va justement écouter le message que vous aviez diffusé sur le site de Bloom pour informer d'abord de ce dossier de la pêche électrique et inviter les gens à signer une pétition. On va l'écouter tout de suite.
Mesdames, messieurs, aujourd'hui, vous êtes appelés à vous mobiliser. L'association Bloom lance une pétition urgente contre la destruction programmée de l'océan. La commission pêche du Parlement européen décidera si la pêche électrique peut être considérée ou non comme une méthode conventionnelle. Actuellement, seuls nos voisins néerlandais utilisent ce monstre ravageur qui pulvérise les ressources et engloutit tout sur son passage.
Est-ce que le Spielblick est-il conducteur de courant électrique?
Eh bien oui, monsieur. Ce monstre des mers envoie des courants électriques pour déloger les poissons de leurs petits nids douillets. Cela vous indigne? Eh bien nous aussi. Mais vous avez le pouvoir d'agir. Citoyennes, citoyens, soutenez Bloom en signant la pétition contre la pêche électrique.
Voilà, façon actualité, et malgré le son suranné, ça a recueilli quand même 100 000 signataires, hein, c'est ça?
Oui, ouais, tout à fait, 2 fois d'ailleurs, parce qu'une fois avant le vote en commission, et de nouveau avant le vote en plénière.
Ouais.
Donc un gros soutien des citoyens, comme toujours, ils nous donnent des ailes. Hein.
C'est 232 députés qui ont voté contre l'interdiction.
Ouais.
Qui sont-ils? Comment est-ce qu'on peut voter contre l'interdiction d'une pêche aussi destructrice et idiote, au fond, hein? Parce qu'à court terme, c'est la destruction totale, au fond, de cette biodiversité.
Même, hein. on voit, hein, là pour le coup, les pêcheurs artisans du nord de la France nous ont montré leurs comptes d'exploitation. Et on voit, hein, ils sont en train de faire faillite. Enfin, c'est pas juste une façon de parler en disant « chouette, on a les pêcheurs artisans avec nous, ça va être super cette fois-ci, on va avoir des arguments forts ». Non, ils sont vraiment en train de faire faillite. Donc la réalité...
À cause directement de la pêche électrique.
Oui, ils ont été mis en cause, les lobbies industriels néerlandais ont été accusés cette semaine. Il y a eu des moments très forts à Bruxelles la semaine dernière et à Strasbourg cette semaine. Les Anglais, les pêcheurs anglais leur ont dit « vous êtes égoïstes ». En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est super pour vous d'un point de vue capitalistique, cynique. C'est génial, vous prenez tout et vous laissez rien derrière. Vous êtes irresponsable et égoïste. Et en fait, c'est ça, c'est un égoïsme radical. Donc, qui signe ? Désolée, mais c'est la droite. Donc, c'est la droite européenne, c'est la droite espagnole. Et ce sont évidemment les quelques députés néerlandais. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a.
Mais puisque vous avez discuté avec ces gens, parce que c'est vrai que le Parlement européen, c'est très souvent pour le citoyen lambda, une espèce de nébuleuse comme ça, où on n'a pas les visages d'ailleurs des députés. On les connaît très mal en tous les cas, mais vous qui les avez vus vraiment, qui avez pu leur parler les yeux dans les yeux, qu'est-ce qu'ils vous répondent quand justement ils essaient de se justifier sur le fait d'accepter cette pêche
électrique ? Je vais vous prendre un exemple concret. Il y a un député de droite polonais qui a dit à des gens de mon équipe qui sont charmants et intelligents et subtils, qui leur ont dit « go away !» Comme ça, voilà, partez quoi. Mais même pas la décence d'être poli. C'est-à-dire que la droite, en partie, ne veut même pas rencontrer les ONG. C'est-à-dire que par principe, en fait, ils nous mettent tous les torts sur le dos. C'est une posture idéologique et très forte. Donc là, on a eu la droite française, parce que pour le coup, je pense que ils ont senti qu'il y avait une vraie vague de fond. Il y avait quand même les pêcheurs artisans français qui étaient concernés. Mais en général, on n'a pas non plus la droite avec nous, même la droite française. Enfin, là, c'est un des rares votes où on peut dire on a voté tous ensemble, heureusement.
Claire Nouvian, la première fois qu'on s'est rencontrés à ce micro, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, dans La Tête au Carré. Vous étiez jeune journaliste, hein, et vous étiez venu nous présenter un livre sur les abysses. Hein. C'était le premier contact avec vous. Déjà, on avait été assez épaté par votre présence au micro, par l'intérêt. Et aujourd'hui, vous êtes quasiment une femme politique. Enfin, vous allez vraiment au combat. Il y a eu un basculement à quel moment pour vous ? Il y a eu ce discours devant Sarkozy et le prince Albert qui a tout changé dans votre parcours
vous
ou pas ?
Vous souvenez de tout. Oui, mais en effet, c'était en 2007. Moi, naïvement, je m'étais dit, de toute façon, enfin, heureusement que j'ai la naïveté, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Parce que la différence entre être une femme politique ou faire ce qu'on fait, c'est qu'en effet, les poissons, c'est quand même une ressource publique qui n'appartient à personne. Donc, elle est administrée de façon publique et donc politique. On ne peut pas s'occuper de conservation marine sans faire de la politique. On m'a proposé plein de fois de faire de la politique et j'ai toujours dit non. Donc, donc je reste en marge parce que je pense qu'on a quelque chose à porter qui est très, très fort. Mais oui, en fait, dès l'origine, il y avait cette naïveté de croire qu'avec mon livre, que j'avais fait de façon à ce qu'on arrête de chaluter les coraux profonds, les poissons profonds, ça suffirait à convaincre les politiques. Donc, j'avais écrit à Nicolas Sarkozy, qui à l'époque était fréquentable, parce qu'il venait d'arriver et qu'il avait une ouverture d'esprit. Vous vous souvenez, il avait fait rentrer des gens dans son cabinet, etc., qui étaient dans son gouvernement, qui étaient des gens bien. Et il avait répondu d'ailleurs de toute façon très favorable. Les deux premières années de Sarkozy, c'était Borloo qui était en puissance, etc. Et donc j'avais fait ce discours et je m'étais rendu compte qu'on pouvait obtenir la faveur de certains politiques simplement en les éclairant sur des projets, des problèmes, qui ne leur étaient pas présentés par leurs équipes. Ouais. Donc en fait, on continue avec cette naïveté-là, avec par contre plus de stratégie, parce qu'on a appris des choses. Entre-temps, on a appris à savoir et à comprendre comment fonctionnait le cerveau d'un politique. Ouais. Et c'est pas tout à fait le même que le nôtre.
Oui, mais donc, alors voilà. C'est quoi la différence? En quelques mots, c'est quoi le cerveau d'un politique?
C'est la plupart, je les trouve vraiment très, très égocentriques. Et je trouve qu'il y a quelques combattants formidables qui récupèrent beaucoup de mauvaises réputations, alors qu'en fait, ils font un travail vraiment dingue au Parlement, mais ce ne sont pas les majoritaires. Et donc, je trouve qu'en général, dans les grands partis politiques, il y a beaucoup trop de calculs. Ils sont tout le temps dans les calculs pour, en général, sauver leur peau, leur salaire, leur position, et pas assez sur des grandes. Et en fait, ils n'ont plus le temps de se poser des grandes problématiques et des grandes. Ils n'ont plus le temps de se cultiver. Aujourd'hui, vous êtes inculte, en fait. C'est un vrai problème. Donc, je me fais pas que des amis, mais c'est pas grave. On est quand même toujours soutenu par les petits groupes. Et dans les petits groupes, il y a encore de la pureté, il y a encore de l'envie de changer le monde.
Et cette pêche électrique, c'est vraiment totalement interdit, fini, ou il y a encore des combats à mener? Parce qu'on a compris que c'était terminé, mais c'est pas vraiment le cas.
Hein. Ah non, pas du tout, malheureusement. Ah oui. Alors, attendez, c'est indispensable d'avoir une position forte du Parlement. Et là, je remercie tous les députés, en commençant par tous les Français qui ont voté comme un seul homme. Mais c'est le début d'une étape, parce qu'après, il y a un truc qui s'appelle le trilogue. Et je le redis, c'est la pédagogie européenne que je fais, parce qu'on va en entendre parler plein de fois de ce trilogue. C'est la négociation entre le Parlement, le Conseil, c'est-à-dire les États membres, et la Commission européenne qui fait toujours, qui est à l'origine des lois. Hein. Donc ce trilogue, il est, alors là, on s'accroche, hein, parce que vive l'Europe, il est totalement opaque, complètement à huis clos. On n'a même pas un compte-rendu de ce qui se dit. Donc c'est compliqué de travailler sur le trilogue, mais on est reparti, parce que la France a annoncé qu'elle soutenait maintenant une interdiction totale de la pêche électrique par le biais de Nicolas Hulot. Donc c'est parti.
Donc c'est pas terminé.
Ah non, c'est même le début.
Henriette Walter, les lauriers de la gloire, on pourrait les décerner à toutes les associations qui se battent et qui obtiennent des résultats.
Et puis bravo, hein, vous avez bien, vous avez gagné, vous pourriez avoir les lauriers sur la tête. Simplement, peut-être que j'aimerais relier l'histoire du laurier à un autre arbre, le palmier.
Ouais.
Et pourquoi?
Bah dites-nous, Henriette Walter.
Et pourquoi? Parce que les lauréats sont ceux qui ont le laurier sur la tête, n'est-ce pas? Mmh. Mais les lauréats, la liste des lauréats, c'est quoi? C'est le palmarès. Et palmarès, eh ben c'est les palmes.
Les palmes académiques, c'est les palmes, par exemple.
Voilà, palmes académiques, eh ben, avec un autre arbre. Encore.
Dans un instant, on va en évoquer d'autres avec vous, des arbres. La majestueuse histoire du nom des arbres dans le club cet après-midi. Ce sera dans un instant.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une assemblée.
Une assemblée de quoi?
De frênes, de hêtres, de châtaigniers, de chênes. Ils sont venus nombreux.
Le club sur France Inter.
Voilà, pour parler des arbres, Le Seigneur des Anneaux, Henriette Walter, et ce livre avec Pierre Avenas, La majestueuse histoire du nom des arbres, du modeste noisetier au séquoia géant. Et c'est aux éditions Robert Laffont. D'où vient d'abord votre intérêt pour les mots? Est-ce qu'on retrace un peu les parcours de chacun aujourd'hui?
À l'origine, c'est pas seulement les mots, hein, c'est en tout cas la prononciation. C'était une histoire d'oreille. C'est l'histoire d'une personne très très myope, moi, qui donc ne voyait rien au tableau et qui avait organisé son oreille, si j'ose dire, pour mieux entendre et mieux suivre à l'école.
Ouais. Voilà.
Ça a commencé comme ça.
Et cette école où, parce que vous êtes né en Tunisie, oui, vous avez baigné dans les langues aussi toute petite. Hein.
Voilà, on parlait français à la maison, mais je parlais italien à l'école, puisque j'allais à l'école italienne à l'époque jusqu'à l'âge de 10 ans. On parlait arabe dans la rue. Ouais. Il y avait aussi une autre variété d'arabe qui est le maltais, qui est un peu spécial, qui n'est pas comme l'arabe des autres régions où on parle l'arabe, puisque les maltais ne sont pas musulmans et que donc leur prononciation a évolué librement sans être tenue par le Coran, alors que les autres le sont. Et donc, ce qui relie en général les arabophones, c'est le Coran. C'est, enfin, en tout cas, une partie, c'est le Coran.
En tout cas, tout ça crée un terrain très favorable pour la suite et pour ce métier de linguiste.
Et alors après, j'ai eu la chance de rencontrer André Martinet. J'étais déjà mariée et j'avais deux enfants. J'étais allée à Londres pour passer un examen de phonétique. Donc, vous voyez, j'étais en plein dans le bain. Mais lorsque je suis rentrée de Londres et que j'ai rencontré Martinet, il m'a demandé, j'étais toute pleine de cette association de phonétique internationale, l'anglais, etc., etc. Il me dit, mais vous parlez italien? Je dis oui, bien sûr. Et ça vous dit quelque chose, la Gorgia Toscana? Je dis non, ça ne me dit rien du tout. Il me dit, vous savez la prononciation de à Florence, vous savez cette prononciation bizarre? Ah oui, bien sûr. Vous voulez pas faire votre thèse là-dessus? Mais j'ai commencé par faire une thèse.
Ça a commencé comme ça.
Oui, j'ai commencé une thèse sur le toscan, c'est-à-dire la prononciation de l'italien d'une façon très très spéciale, puisqu'on ne dit pas la casa, on dit la hasa.
Donc Henriette,
c'est pour ça qu'on
Walter
appelle la gorge à Toscane, la gorge.
La majestueuse histoire du nom des arbres. Ah oui,
oui,
alors justement,
oui,
pour revenir à nos arbres, parce que quand même, ça vous a demandé 6 ans de travail, donc il faut en parler aussi de cet ouvrage.
Avec Pierre Avenas, qui est très très compétent dans ce sujet.
En botanique en particulier.
Et lui, il n'est pas botaniste, il est spécialiste de rien, il est scientifique. Nous dirons que c'est le scientifique par excellence. Voilà.
Ouais, très généraliste, alors, mais très, curieux de tout. Hein.
Tout. Et puis il est spécialiste surtout de sciences physiques et chimiques. Hein. Ouais. C'est la science dure, si j'ose dire. Sciences naturelles aussi, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la question depuis qu'il était tout jeune. Hein. Lui, il est comme moi.
Alors, c'est pas un dictionnaire. Vous avez fait un choix particulier de présentation aussi et de voyage à travers ces mots qui évoquent les arbres.
C'est-à-dire, nous partons des arbres et nous essayons de voir à quoi peuvent se rapporter les noms des arbres. Si on prend, je sais pas, le chêne par exemple, est-ce que par hasard il y aurait pas des noms de personnes qui ont comme forme le nom d'un chêne? Alors oui, on a Chassagne, on a Chênet, etc. On a essayé de voir aussi s'il y avait pas un peu de poésie qui pourrait se rapporter aux arbres. Par exemple, quand on a travaillé sur le saule, on s'est dit, est-ce qu'il y a pas, ah ben il y a un poème, il y a un poème de Musset, il y a un poème de Musset pour dire de planter un saule sur sa tombe. Alors Pierre Avenas est allé voir la tombe et il m'a dit mais c'est pas un saule pleureur, alors que Musset dit son feuillage éploré. Donc il pense au saule pleureur, mais c'est pas un saule pleureur qui est là.
Ouais.
Et puis il y a Brassens avec le pain parasol. Lui c'est le pain parasol. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que Musset a pensé à ce qu'il y aurait sous la terre, si j'ose dire, tandis que Brassens pense aux gens qui vont venir se prosterner sur la tombe. Pour ne pas avoir d'insolation.
Ouais. Donc ça, c'est marrant parce que vous nous décrivez aussi la façon dont vous travaillez. J'ai l'impression que vous aurez plein de petits tiroirs avec cette mémoire prodigieuse aussi qui est la vôtre,
c'est
pour
notre
pouvoir aller chercher des mots et au fond raconter votre propre histoire.
Parce qu'il y a
ce choix qui est fait aussi de 200 arbres.
Et voilà, alors bien sûr, bon, il n'y en a que 200. Et on s'est posé la question à un moment en se disant, mais est-ce que par hasard, on se serait pas trompé? Parce que quand même, avec les près de 70 000 espèces, que faire avec ça pour faire des noms, des mots, un livre, disons, qui se tienne? Et en fait, c'est évident. Lorsqu'on regarde les noms des arbres, on voit que il y a une quantité énorme de ce qu'on appelle des hyperonymes. C'est-à-dire des noms génériques. On dira chêne, mais en fait, il y a plusieurs centaines de chênes. On dira palmier, il y en a 2500. Donc, vous voyez qu'on est très très loin du compte, et voilà pourquoi on a pu réduire notre livre à 200.
Henriette Walter, tiens, justement, pour l'ancienne journaliste qui est Claire Nouvian, il y a une histoire de marronnier. Est-ce que vous savez, Claire, pourquoi on emploie cette expression de marronnier en journalisme, pour dire que tous les ans, on peut faire appel au même sujet quasiment?
Pas du tout, non.
Voilà. On raconte, c'est la légende, hein, qui dit que c'était un arbre qui était dans les Tuileries, et qui tous les ans fleurissait exactement au printemps, à la même époque. Et à chaque année, on racontait l'histoire. Et c'est devenu le marronnier.
Ouais, maintenant, on va parler des méduses en Méditerranée avant l'été, à chaque fois.
C'est le sujet marronnier.
Exactement, voilà. C'est le sujet marronnier de la mer. Marronnier.
Et on apprend l'origine de cette expression.
Et puis, ne pas
expression.
Confondre le marron et la châtaigne, hein, bien sûr.
Hein, Pline l'Ancien, Linné. Alors, il y a de grands noms aussi dans cette histoire des arbres.
Théophraste,
grand botaniste de l'Antiquité.
Exactement. Donc Linné était quelqu'un d'intéressant, bien sûr, parce qu'il a donné l'impulsion à la nomination binominale, hein, où avec le premier nom, c'est le nom de genre, et le deuxième, c'est le nom d'espèce. Mais l'ennui avec Linné, c'est qu'il écrit en latin et il écrit en style télégraphique. Il raconte jamais d'histoire. Il nous dit jamais pourquoi. Donc on est très embêtés. Des gens comme nous, vous pensez, on ne cherche que les histoires et on ne les trouve pas chez Linné. Ouais. Théophraste le dit un petit peu plus. Et Pline. Pline l'Ancien, nous l'avons beaucoup, beaucoup cité.
On va écouter un extrait de Nymphomaniac. On l'a beaucoup entendu d'ailleurs, Nymphomaniac, cette semaine sur l'antenne, mais avec Lars von Trier et ce film en particulier, on peut ouvrir là aussi beaucoup de portes. Et on va écouter un extrait qui évoque le frêne, Henriette Walter.
Mon père adorait me parler des arbres et de leurs feuilles. Il considérait que ça faisait partie d'une bonne éducation.
C'est l'âme des arbres et de la nature qu'on voit quand c'est l'hiver. Les branches et les troncs se détachent sur le ciel. Ils sont tous tordus. Regarde ça. Quand le frêne a été créé, la majorité des autres arbres de la forêt ont été jaloux. C'était le plus beau des arbres. Il était rigoureusement parfait. Et puis l'hiver venu, quand toutes les feuilles du frêne sont tombées, les autres autour de lui ont remarqué ses bourgeons noirs et ils ont ri de lui. Regarde, le frêne a mis ses doigts dans la cendre. Tu vois, tu peux toujours reconnaître un frêne en hiver. Ses branches sont pleines de petits bourgeons noirs.
Et le frêne, évidemment, à son entrée dans ce livre, Henriette Walter.
Bien sûr. Et avec tous les autres arbres, tous ceux qui sont intéressants, si j'ose dire, à notre point de vue.
Oui. Quel est votre arbre préféré, vous, justement, Henriette Walter, puisque vous avez fait votre choix?
Je devrais vous dire l'olivier, parce que je suis née en Tunisie et que je suis née sous les oliviers, si j'ose dire.
Mais vous allez nous dire autre chose.
Non, j'aime mieux le séquoia.
Ah oui.
J'aime le séquoia, simplement parce qu'il y a une légende qui dit que séquoia, c'est le nom d'un Amérindien Cherokee qui a inventé un alphabet pour sa langue. Et ça, c'est une espèce de tendresse pour lui. Ouais.
Alors, il y a des expressions aussi, la langue de bois.
Alors,
ça
langue de bois, la langue de bois, c'est une expression traduite du russe. En fait, en russe, c'est la langue de chêne. Et le chêne, c'était le matériau qui était sur les bureaux de l'administration tsariste. Et c'était un endroit où on posait des questions, on n'avait jamais la réponse. Mmh. On n'avait pas la réponse. D'où la langue de bois. Oui. C'est-à-dire qu'on parle
parce
pour ne rien dire.
Ça veut dire Roddouba. Parce que c'est, oui, c'est le Doub, ça veut dire chêne.
Vous parlez russe, Claire?
Oui, je parle un petit peu le russe. Et en fait, on dit Roddouba, ouais, parce que c'est le masculin génitif de chêne. Doub.
C'est ça. Ah oui, donc c'est une langue
Dubois. On entendait, il devait dire Dubois. C'est en ça. Fait Dubois, Dubois. Ouais, ouais, ça devait être ça.
Et le mot arbre, alors Henriette Walter, on va terminer avec lui. Le mot arbre, qu'est-ce qu'il nous raconte?
Le mot arbre, c'est un mot qui a des répercussions dans le grec, par exemple, d'Hervo, le druide. Enfin, on a des tas de choses comme ça avec arbre, arbos, arbor et arbos avec un S, d'où arbuste. Vous voyez, des choses de ce genre-là.
Voilà, balade au pays des arbres avec la majestueuse Histoire du nom des arbres, et c'est aux éditions Robert Laffont, Henriette Walter avec Pierre Avenas. Coco, et c'était Licolo à l'instant.
La tête au carré, le club.
Notre dernier invité.
Commencement, il n'y avait rien. Rien qu'un néant sombre, plus noir qu'une nuit sans lune. Soudain, c'est vide à couche d'un minuscule œuf d'énergie et de matière. C'est la naissance de l'espace et du temps.
Voilà, extrait de Genesis. Et je vous disais donc, notre dernière invitée, Blandine Pluchet, physicienne et vulgarisatrice scientifique avec ce Big Bang pour les nuls aux éditions First, avec une préface du grand Manitou de l'astrophysique Hubert Reeves, voilà, que vous avez rencontré, évidemment. Oui, c'est un modèle pour vous?
Oui. C'est par ces ouvrages que j'ai découvert l'astrophysique pendant mes études et voilà, je partage sa pensée, je l'admire. C'est tout un personnage, oui, qui sait compter l'astrophysique avec tellement de poésie. C'est...
Dans quel domaine de la physique vous avez travaillé, Blandine Pluchet, au départ?
Mes études ont été orientées plutôt sur la physique de la matière, mais je me suis arrêtée au DEA, en fait, à l'époque, hein, je crois que c'est le master, avec l'envie de partager, de raconter ce que j'apprenais.
Donc vous avez dit, je vais être vulgarisatrice scientifique, c'est quasiment un métier que vous avez décrété comme ça?
Il y avait inspiré.
Claire Nouvian, c'est plutôt Hubert Reeves, à mon avis.
Certainement, ah ouais. Ouais, quelque part. Hein. Ouais. Oui, j'ai eu envie, j'ai commencé d'abord par la jeunesse. Hein. Le Big Bang pour les nuls, c'est mon premier ouvrage pour les adultes. Ouais. J'avais envie de raconter aux enfants. C'est vrai que tout ce que... Je pense que que la science et la physique notamment donnent un autre regard sur le monde qui permet de voir les choses d'une manière avec un certain recul aussi, et donc notamment cette théorie du Big Bang que j'ai abordée d'abord donc pour les enfants dans un ouvrage qui s'appelle Le Quark et l'enfant aux éditions Le Pommier.
Le Quark et l'enfant, ça c'est gonflé quand même comme titre. Hein.
Donc en fait, je tenais, c'était très important pour moi de raconter aux enfants en fait la grande histoire du monde dans laquelle leur existence s'inscrivait, et de leur dire finalement toutes les petites particules qui te constituent, qui sont hautement organisées à l'intérieur de ton corps, elles existent depuis 14 milliards d'années. À ce qu'en sait actuellement la science, et elles ont vécu tout un tas d'aventures jusqu'à arriver à cette merveille que tu es. Et je voulais, ça me tenait à cœur que l'enfant puisse comprendre que son existence s'insère dans un cadre beaucoup plus large que finalement ça.
Donc de faire le lien entre cet espace immense qu'est l'univers et cette réalité du corps aussi, hein, puisque nous sommes composés de ces atomes et donc de ces poussières d'étoiles, pour reprendre là encore Hubert Reeves, parce que c'est cette image qui nous a marqué, mais c'est bien
au
fond. Hein.
Bien sûr, c'est une image très très belle. Hein. Et donc dans ce Big Bang pour les nuls, je reprends donc cette idée, parce que le Big Bang c'est avant tout donc une théorie qui raconte l'évolution de l'univers, qui raconte donc ce grand récit qui est notre histoire à nous tous, hein, et connaître cette histoire, ça donne je pense vraiment à un autre regard sur nos existences, sur notre planète Terre, sur les autres êtres vivants.
Oui, parce qu'après vous prolongez sur les questions environnementales, parce que c'est vraiment le Big Bang vu d'une façon très très large, pour partir du point de départ, si c'est un point de départ, ça aussi il faudrait qu'on en discute, jusqu'à ces questions qui nous intéressent aujourd'hui sur Terre, et qui sont celles justement de la façon dont on s'occupe de notre planète et des environnements différents.
Voilà, c'est ça, mais à partir de la connaissance de cette histoire, de ce grand récit, nous permet de nous rendre compte finalement de la complexité des paramètres pendant 14 milliards d'années et plus, enfin on ne sait pas au-delà, qui ont permis de faire apparaître ou se former en tout cas la planète Terre et tous les êtres vivants qui la peuplent aujourd'hui, et de voir qu'on est finalement tous frères et sœurs, êtres vivants, arbres.
Ça vous parle évidemment.
Non mais ça parle à tout le monde, j'imagine. Mais j'ai une question, c'est déjà pourquoi est-ce qu'on sait retracer sur 14 milliards d'années mais pas au-delà? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne sache pas?
Qu'est-ce qu'il y a avant? D'abord, est-ce que c'est un point de départ le Big Bang, et qu'est-ce qu'il peut y avoir avant?
Le Big Bang, c'est aujourd'hui on dit que c'est le moment le plus éloigné dans l'histoire de l'univers auquel les scientifiques, les physiciens savent remonter à l'aide de leurs théories. Au-delà, on a deux théories en fait qui sont la théorie de la relativité générale et la théorie de la mécanique quantique, qui se contredisent à ce moment-là. En fait, il y a une limite symbolique qu'on appelle le mur de Planck. Et donc au-delà, on ne sait pas. Donc ça ne veut pas dire que c'est le début, que c'est l'origine de l'univers, ça veut simplement dire que c'est la limite actuellement de notre connaissance.
C'est ça, parce qu'on l'entend toujours, le Big Bang, comme un point zéro, comme un commencement. Oui. Mais tous les scientifiques et astrophysiciens disent non, justement, ça c'est une erreur d'interprétation.
Voilà, et en fait, c'est une erreur qui s'inscrit dans l'histoire de la découverte de la théorie. Et donc, c'est ce que je raconte dans la deuxième partie du livre, après retracer tout le récit de l'évolution de l'univers jusqu'à nous. Je raconte comment on a découvert cette théorie. Et pour la raconter, j'ai décidé finalement de retracer tout le rapport de l'homme au cosmos, à l'univers, depuis la nuit des temps, depuis que l'homme regarde les étoiles.
Avec là aussi des grandes figures qui ont vraiment émaillé cette histoire,
bien sûr,
les grands découvreurs.
Oui, tout à fait. Et donc c'est là où En connaissant ce contexte historique finalement des sciences jusqu'à la fin du 19e siècle, où finalement les scientifiques pensaient, comme on pensait déjà pendant l'Antiquité, que l'univers était immuable, éternel, qu'il avait toujours été tel qu'il est aujourd'hui, avec des étoiles depuis toujours. Et là, au début du 20e siècle, Einstein il est un peu gêné de ça d'ailleurs, mais il montre que l'univers est en mouvement, et puis d'autres scientifiques vont reprendre ces équations de la relativité générale pour détailler ça. Et Et donc là, on va découvrir donc que l'univers est en expansion, donc en évolution, qu'il n'a pas toujours été tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une grande révolution au regard de la manière dont on voyait l'univers avant.
Est-ce que c'est facile d'expliquer toutes ces notions, justement, au grand public, puisque c'est le thème de cette collection pour les nuls, sans utiliser forcément les mots compliqués de l'astrophysique?
C'est un pari, bien sûr. Alors, je me suis efforcée. Donc, je pense que, voilà, en arrivant de la jeunesse, où j'ai travaillé donc à essayer de vraiment simplifier au maximum pour les enfants. Le cadre de cette collection me convenait bien. Je me suis efforcée évidemment d'aller au plus simple et en même temps, y a beaucoup de choses à dire quand même. Donc je pense que le livre est dense. Hein. J'y raconte énormément de choses parce qu'il y a vraiment beaucoup à raconter au niveau anecdotique, que ce soit au niveau historique, personnage et puis les idées aussi qu'il y a derrière toute cette théorie. Et donc je pense que vraiment, je m'efforce de commencer par le début. Donc, je raconte beaucoup, mais ça va...
Et vous rendez hommage aussi aux femmes qui ont écrit cette histoire de l'astrophysique, parce qu'on ne parle que des hommes en général, mais il y a aussi des femmes qui ont été très importantes dans toutes les étapes. Ça s'appelle « Le Big Bang pour les nuls » et vous signez cet ouvrage, Blandine Pluchet. Et on retrouve évidemment les ouvrages dont nous avons parlé cet après-midi sur le site de La Tête au Carré. Bon week-end à toutes et merci d'être venues à ce micro.
Merci.
Et c'est terminé pour ce club. Merci à Kevin Pelot et Bertrand Durand qui étaient à la technique. Edith Heard sera notre invitée lundi prochain. Elle est généticienne, spécialiste de l'épigénétique et elle vient de remporter le Grand Prix de l'INSERM.